Bonjour à tous. Ce matin, nous continuons notre étude du livre des Actes. Et on revient un petit peu en arrière par rapport à la dernière prédication de Luc, donc, qui avait traité Acte 16. Et donc là, on revient en Acte 15. On va parler d'un... Donc ce passage que je vais lire là tout de suite... nous parle de la première grande crise dans l'Église. Ça nous parle donc de comment l'Église va résoudre cette crise, comment les positions qui semblaient irréconciliables vont être réunies. Ce passage va aussi nous parler d'une séparation. Et je pense que ça peut faire écho un peu à ce qu'on vit actuellement dans notre actualité, où on voit combien dans un peuple, dans une communauté, ou même entre peuples et entre communautés, combien c'est difficile d'arriver à se mettre d'accord, combien c'est difficile d'arriver à trouver une position qui satisfasse tout le monde. Combien c'est aussi facile que certains décident de fermer la porte. On voit les grèves en ce moment, les gens qui protestent. On voit les Anglais qui décident de quitter l'Europe. On est dans un contexte où la séparation et le conflit règnent et où ce sont ces solutions-là qui prennent le dessus. Et on va voir comment dans l'Église, le conflit a été réglé, et aussi comment la séparation a été gérée. Alors je vais commencer donc à lire dans Acte 15, je lis dans la traduction du Semeur, et je commence donc au verset 1. Quelques hommes venus de Judée arrivèrent à Antioche. Ils enseignaient les frères en disant « Si vous ne vous faites pas circonscrire comme Moïse l'a prescrit, vous ne pouvez pas être sauvés. » Il en résulta un conflit et de vives discussions avec Paul et Barnabas. Finalement, il fut décidé que Paul et Barnabas monteraient à Jérusalem avec quelques autres frères pour parler de ce problème avec les apôtres et les responsables de l'Église. L'Église pourvut à leur voyage. Ils traversèrent la Phénicie et la Samarie, racontant comment les non-juifs se tournaient vers Dieu, et tous les frères en eurent beaucoup de joie. À leur arrivée à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les apôtres et les responsables. Ils leur rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Mais quelques anciens membres du parti des pharisiens, qui étaient devenus des croyants, intervinrent pour soutenir qu'il fallait absolument circonscrire les non-juifs et leur ordonner d'observer la loi de Moïse. Les apôtres et les responsables de l'Église se réunirent pour examiner la question. Après une longue discussion, Pierre se leva et leur dit « Mes frères, comme vous le savez, il y a déjà longtemps que Dieu m'a choisi parmi vous pour que j'annonce la bonne nouvelle aux non-juifs, pour qu'ils l'entendent et deviennent croyants. Dieu, qui lit dans le secret des cœurs, a témoigné qu'il les acceptait en leur donnant lui-même le Saint-Esprit comme il l'avait fait pour nous. Entre eux et nous, il n'a fait aucune différence, puisque c'est par la foi qu'il a purifié leur cœur. Pourquoi donc maintenant vouloir provoquer Dieu en imposant à ses disciples un joug que ni nos ancêtres ni nous n'avons jamais eu la force de porter? Non. Voici au contraire ce que nous croyons. C'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés, nous juifs, de la même manière qu'eux. » Alors tout le monde se tut pour écouter Barnabas et Paul raconter les signes miraculeux et les prodiges que Dieu avait accomplis par eux parmi les païens. Quand ils eurent fini de parler, Jacques prit la parole et dit « Maintenant, mes frères, écoutez-moi. Simon vous a rappelé comment, dès le début, Dieu lui-même est intervenu pour se choisir parmi les non-juifs un peuple qui lui appartienne. Cela concorde avec les paroles des prophètes, puisqu'il est écrit « Après cela, dit le Seigneur, je reviendrai, je rebâtirai la maison de David qui s'était effondrée, j'en relèverai les ruines et je la redresserai. Alors, le reste de l'humanité se tournera vers le Seigneur. Oui, toutes les nations qui sont appelées à m'appartenir. Ainsi parle le Seigneur qui réalise ce qu'il a préparé de toute éternité. Voici donc ce que je propose, continua Jacques. ne créons pas de difficultés aux païens qui se convertissent à Dieu. Écrivons-leur simplement de ne pas manger de viande provenant des sacrifices offerts aux idoles, de se garder de toute inconduite sexuelle et de ne consommer ni viande, ni animaux étouffés, ni sang. En effet, depuis les temps anciens, il y a dans chaque ville des prédicateurs qui enseignent la loi de Moïse, et à chaque sabbat, on la lit dans les synagogues. Alors les apôtres et les responsables, avec toute l'Église, décidèrent de choisir parmi eux quelques délégués et de les envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas. Ils choisirent donc Jude, surnommé Barsabbas, et Silas. Tous deux jouissaient d'une grande estime parmi leurs frères. Et voici la lettre qu'ils leur remirent. Donc ensuite, il y a la lettre que l'Église remet à ses envoyés. Ils arrivent à Antioche, ils la lisent. Et donc, je continue au verset 35. Paul et Barnabas restèrent à Antioche, continuant avec beaucoup d'autres à enseigner et à annoncer la parole du Seigneur. Après quelque temps, Paul dit à Barnabas, « Partons refaire le tour de toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur et rendons visite aux frères pour voir ce qu'ils deviennent. » Mais Barnabas voulait emmener avec lui Jean, appelé aussi Marc. Et Paul estimait qu'il ne convenait pas de prendre avec eux celui qui les avait abandonnés en Pamphylie et qui ne les avait pas accompagnés dans leur œuvre. Leur désaccord fut si profond qu'ils se séparèrent. Barnabas emmena Marc avec lui et il s'embarqua pour Chypre. Paul, de son côté, choisit Silas et partit avec lui après avoir été confié par les frères à la grâce du Seigneur. Il parcourut la Syrie et la Cilicie en fortifiant les églises. Donc, un conflit pour savoir ce qu'il convenait de faire avec la loi, de Moïse, avec la circoncision, avec la question en toile de fond de qui est le peuple de Dieu. C'est un tournant dans la vie de l'Église. Si la décision avait été autre que celle qui a été prise, alors peut-être que tous les hommes ici seraient circoncis. Plus probablement, il n'y aurait personne ici. L'Église a été souvent présentée comme une secte juive qui avait réussi. Et en fait, à ce moment-là, l'Église a dû effectivement choisir ce qu'elle était. Est-ce qu'elle était une secte juive, une séparation du judaïsme qui prenait une voie un peu différente mais qui gardait les mêmes bases? Ou bien est-ce qu'elle choisissait un nouveau chemin? Et l'Église a choisi un nouveau chemin. Pourtant, ça n'avait rien d'évident. On va lire le passage qui institue la circoncision comme marque de l'alliance avec Dieu. Et ça se trouve dans Genèse, au chapitre 17. Ça remonte à Abraham. Donc la circoncision, on la retrouve dans le Lévitique. Mais la façon dont elle est instituée, c'est Dieu qui parle à Abraham et qui institue avec lui l'alliance. Donc je vais lire, c'est au chapitre 17 de Genèse, je vais lire les 14 versets qui en parlent. Quand Abraham eut 99 ans, l'Éternel lui apparut et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, conduis ta vie sous mon regard et comporte-toi de manière irréprochable. Je conclurai une alliance avec toi et je multiplierai ta descendance à l'extrême. » Abraham se prosterna la face contre terre et Dieu continua à lui parler en disant « Voici quelle est mon alliance avec toi. Tu deviendras l'ancêtre d'une multitude de peuples. Désormais, ton nom ne sera plus Abraham, père éminent, mais Abraham, père d'une multitude. Car je ferai de toi le père d'une multitude de peuples. Je multiplierai à l'extrême le nombre de tes descendants. Je te donnerai d'être à l'origine de diverses nations. Des rois même seront issus de toi. Je maintiendrai éternellement mon alliance avec toi, puis avec ta descendance après toi, de génération en génération. En vertu de cette alliance, je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Je te donnerai ainsi qu'à ta descendance ce pays de Canaan où tu vis maintenant en étranger, en nomade. Il sera votre propriété pour l'éternité, je serai le Dieu de ta descendance. » que Dieu ajouta, « De ton côté, tu observeras les clauses de mon alliance, toi et ta descendance de génération en génération. Et voici quelle est mon alliance avec toi et ta descendance. Quels en sont les termes que vous devrez respecter ? Tous ceux qui sont de sexe masculin parmi vous seront circoncis. Vous porterez cette marque dans votre chair, ce sera le signe de l'alliance entre moi et vous. De génération en génération, tout garçon devra être circoncis à l'âge de 8 jours. Cela s'applique aussi à tout garçon né dans ta maison, et aux étrangers qui auront été achetés comme esclaves et qui ne sont pas de ta descendance. Tous, sans exception, seront circoncis. Qu'ils soient nés dans ta maison ou acquis à prix d'argent, ainsi le signe de mon alliance sera gravé dans votre chair. C'est là une alliance à perpétuité. Celui qui n'aura pas été circoncis sera retranché de son peuple parce qu'il n'aura pas respecté les clauses de mon alliance. » C'est solennel comme texte. C'est Dieu qui parle à un homme, qui lui dit « Pour l'éternité, je vais faire alliance avec toi et avec ta descendance, et cette alliance sera marquée dans ta chair. » Tous les enfants, à l'âge de 8 jours, seront circoncis. C'est pas quelque chose de anodin, hein, cette alliance. Tous les hommes la portent dans leur chair. C'est un symbole d'appartenance qu'on ne peut pas traiter à la légère. Et le texte ici est solennel et insiste sur le fait que celui qui ne sera pas circoncis sera retranché du peuple. Les hommes qui vont devoir prendre cette décision, eh bien, ils sont tous circoncis. Pierre, Paul, Jacques. Et ils suivent Jésus, qui lui-même était aussi circoncis. Tous sont circoncis. Tous sont héritiers de cette alliance. Tous portent cette histoire avec eux. Et on sait combien c'est difficile de changer quelque chose qu'on a vécu, qu'on a porté, quelque chose qui a une importance aussi grande. Comment renoncer à ça ? On peut reprendre aussi les paroles de Jésus par rapport à la loi. Les paroles de Jésus n'étaient pas si évidentes que ça à comprendre quand il parle de la loi. Et, je peux lire dans Matthieu au chapitre 5, dans le sermon sur la montagne. Quand on entend Jésus qui parle de la loi et qui explique que la loi doit descendre jusque dans le cœur. Et au verset 17, Jésus dit « Ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. » Jésus ne rejette pas la loi. Dans un autre passage, un peu plus loin, au chapitre 15, et au verset 11, Jésus va quand même réinterpréter la loi par rapport à ce qui est pur et impur, puisque dans la loi de Moïse contenait cette distinction entre le pur et l'impur. Jésus appela la foule et lui dit « Écoutez-moi et comprenez-moi bien, ce qui rend un homme impur, ce n'est pas ce qui entre dans sa bouche, mais ce qui en sort. » Donc les interdits alimentaires, on entend bien que Jésus les réinterprète. On entend bien aussi qu'il a un regard nouveau sur la loi et ce qu'elle implique. Mais on voit bien que là, l'Église est devant une situation où elle doit interpréter, où elle doit comprendre ce que Jésus a accompli, comprendre ce que Jésus a dit sur la loi, comprendre en quoi la venue du Christ change change l'alliance telle qu'elle était comprise jusqu'à présent. Et ils doivent appliquer ces nouveaux concepts à leur situation actuelle et prendre une décision par rapport à une situation que Jésus n'a pas mentionnée. Pour autant que je le sache, il n'a pas parlé de la circoncision. Une fois de plus, lui-même était circoncis. Et l'Église doit choisir le chemin qui est devant eux en comprenant le plan de Dieu. Et ces trois hommes, principalement, qui vont être les acteurs de cette interprétation, Pierre, Paul et Jacques. Ces trois hommes-là vont, dans notre texte, on le voit, donc, intervenir, parler, expliquer et conduire l'Église à comprendre comment le sacrifice de Christ transforme la façon dont les hommes et Dieu sont en relation. Michel a lu tout à l'heure le passage où Pierre est restauré et retrouvé. On connaît tous le reniement de Pierre, comment il est tombé, comment il a renié son Seigneur, et on a lu comment Jésus était venu le chercher alors que Pierre avait baissé les bras. Comment Jésus est venu le chercher, l'a restauré et lui a donné la responsabilité de conduire les brebis, de s'occuper des disciples. Et c'est ce que Pierre va faire là. Paul, lui aussi, on connaît son parcours d'opposant farouche à l'Église, de participant au meurtre d'Étienne, dans celui qui a lutté pied à pied contre le message de Christ, et Paul, lui aussi, qui a été repêché, qui a été sauvé, que Jésus est allé retirer et amener à la vie. Jacques, on connaît moins bien son parcours. On sait que c'est un frère du Seigneur, un frère de Jésus. Enfin, ça m'a toujours semblé étonnant. J'ai toujours demandé qu'est-ce que Jacques faisait là. Et on ne sait pas forcément grand-chose de lui, mis à part qu'il occupait une position d'autorité dans l'église de Jérusalem. On peut quand même se rappeler que dans la description de la famille de Jésus, on sait que ses frères n'ont pas compris qui était Jésus et ce qu'il venait faire. On sait qu'ils sont venus le chercher en lui disant « Bon, arrête de raconter ce que tu racontes, rentre à la maison parce que maintenant ça devient n'importe quoi. » Et Jacques, probablement, faisait partie de ça. Lui non plus n'a pas compris qui était Jésus. Et pourtant, il se retrouve là maintenant, parmi les croyants, et en occupant une place d'autorité. Pierre et Paul sont ceux qui ont été aussi envoyés vers les païens, vers ceux qui étaient à l'extérieur de l'Alliance, envoyés vers ceux qui ne connaissaient pas Dieu. Et c'est eux qui étaient à la pointe de ce combat-là, de cet envoi-là. Et ces trois hommes vont comprendre le message de Christ, le comprendre à partir de, et ce texte nous le montre, à partir de ce qu'ils voient, de l'action de Dieu. C'est répété plusieurs fois dans ce texte. Dieu agit et il témoigne de... Donc, Paul et Pierre témoignent de la façon dont Dieu agit parmi les païens. Comment il est intervenu pour convaincre, comment il a donné son esprit sans faire de différence entre les juifs et les non-juifs, comment Dieu est intervenu par des miracles et des prodiges pour attester de la véracité du message qui était apporté. Donc il s'appuie d'abord sur ce qu'il voit de l'action de Dieu. Il s'appuie aussi sur la parole. On le voit, Jacques va justifier la décision qu'il prenne en s'appuyant sur l'accomplissement des prophéties. Malgré tout, dans ces deux choses-là, dans l'action de Dieu, dans la parole, ça reste quand même à eux de donner du sens à ce qu'ils sont en train de voir et de lire. Il faut qu'ils donnent, qu'ils fassent une synthèse, qu'il faut qu'ils interprètent et qu'ils comprennent où Dieu les conduit. Et ces hommes qui ont vécu, je pense, dans leur... au plus profond d'eux-mêmes, que l'homme ne peut pas se sauver par ses propres forces. Ils ont vécu l'échec, vécu qu'ils se sont trompés. Chacun à leur niveau s'est trompé, a abandonné Dieu, a lutté contre lui, ne l'a pas compris. Chacun d'entre eux a vécu sa propre faiblesse, sa propre incapacité à répondre aux attentes de Dieu par eux-mêmes. Ils ont vécu ça dans leur relation intime avec Dieu et dans ce qu'ils voient de l'action de Dieu, dans ce qu'ils lisent de sa parole. Ça leur permet de comprendre comment la mort et la résurrection de Christ transforme l'alliance qui avait été donnée à Abraham, cette alliance qui se marquait dans la chair, cette alliance qui se marquait par le respect de ce qui est pur et de ce qui est impur, qui se marquait par le sacrifice et le fait de verser le sang et de donner une vie pour racheter ses péchés. Ces hommes-là comprennent que cette alliance-là a été transformée et que désormais, c'est la foi qui justifie. C'est ce que dit Pierre, la première chose qu'il dit. Il dit, donc je lis ça au verset... Verset 9, entre les juifs et les non-juifs, il n'a fait aucune différence, puisque c'est par la foi qu'il a purifié leur cœur. C'est la foi qui purifie, et non plus la loi, non plus le pur et l'impur. La deuxième parole que Pierre va apporter pour... interpréter cette nouvelle alliance, eh bien c'est un peu plus loin au verset 11, quand il constate que la loi a été un échec depuis toujours pour son peuple et pour lui, ce joug qu'ils n'ont jamais réussi à porter, eh bien nous au contraire, ce que nous croyons, c'est que par la grâce du Seigneur Jésus, nous sommes sauvés. Nous, juifs, de la même manière qu'eux. La foi seulement, la grâce seulement. C'est les fondements de la doctrine du salut, de la doctrine de l'Église. C'est ce que Paul va expliquer plus en profondeur dans l'épître aux Romains. Et je vais juste lire quelques versets dans ce Romain au chapitre 3. Donc Paul, il cite l'Écriture et qui dit, l'Écriture le dit, il n'y a pas de juste, pas même un seul, pas d'homme capable de comprendre, pas un qui cherche Dieu. Et qui continue au verset, alors que je ne me trompe pas, ouais, du verset 20 au verset 24. Personne ne sera déclaré juste devant Dieu parce qu'il aura accompli les œuvres demandées par la loi. En effet, la loi donne seulement la connaissance du péché. Mais maintenant, Dieu a révélé comment il nous déclare juste sans faire intervenir la loi, comme l'avaient annoncé les livres de la loi et les écrits des prophètes. Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ. Cela s'applique à tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence entre les hommes. Tous ont péché, en effet, et sont privés de la glorieuse présence de Dieu, et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. Paul va donc écrire ça à l'Épître aux Romains. On sait l'importance que cette épître a eue dans l'histoire de l'Église. On sait que ce fondement de la relation à Dieu, la foi et la grâce, on sait que l'Église a eu du mal dans son histoire à préserver cela. Assez rapidement, ça a dérivé. Et on sait que Luther, au XVe siècle, en redécouvrant cet épître aux Romains, a redécouvert comment Dieu se mettait à la portée des êtres humains en leur permettant de le rencontrer, d'être justifié et sauvé. Ce passage montre aussi l'importance de la parole, la façon dont l'Église prend cette décision. Donc on l'a dit, elle est fondée sur ce qu'il voit de l'action de Dieu et aussi de ce qu'il lise du plan de Dieu dans la parole. Et là aussi, pour faire référence à la réforme, là aussi, l'Église a dû revenir à cette démarche-là de justifier sa doctrine et son chemin par la parole seulement. Jacques n'a pas fait intervenir la tradition. Pourtant, il y avait une tradition qui était riche, hein, à cette époque-là. Il ne fait pas intervenir la tradition pour cette décision. Il fait intervenir la parole de Dieu. Et on retrouve dans ce passage les trois sola de la réforme, par la foi seule, par la grâce seule, par l'écriture seule. Ce sont les fondements de la doctrine de l'Église, de la façon dont l'Église construit sa compréhension de ce que Dieu, de là où Dieu conduit les hommes. Ce passage montre aussi un autre aspect quand Jacques fait une espèce de synthèse de ce qui a été apporté par Paul et Pierre. Il va conclure en disant on va éviter de poser des obstacles. Éviter de poser des obstacles à ceux qui s'approchent de Dieu. Pierre a dit la même chose juste avant, où quand il a parlé de provoquer Dieu en imposant aux disciples des choses que eux-mêmes n'ont jamais réussi à porter. L'objectif de présent dans tout ce passage-là, le but que recherche chacun de ces hommes, c'est d'abord d'annoncer au monde l'évangile et la bonne nouvelle que Jésus leur a donnée. Ils ont tous profondément conscience que c'est là leur mission. Le texte que cite Jacques nous parle de la propagation de l'alliance au monde entier. Et dans cet objectif-là, ils ont conscience qu'il ne faut pas mettre d'obstacles qui soient inutiles au fait que les hommes puissent recevoir ce que Dieu a à leur donner. Et Jacques va ensuite faire preuve simplement de pragmatisme. Alors, cette histoire ne montre pas une espèce de synthèse molle pour résoudre un conflit. On va ménager la chèvre et le chou. C'est impressionnant de voir que dans la façon dont ils ont de résoudre ce problème, c'est d'abord les principes fondamentaux qui sont mis en avant. La signification profonde du sacrifice et de la mort et de la résurrection de Christ qui sont mis en avant, la foi et la grâce qui sont réaffirmées. Et ensuite, il faut tenir compte de là où en sont les hommes. C'est ce que disait aussi Michel ce matin. Jacques va rappeler simplement que la loi de Moïse est enseignée partout où se trouvent les églises, et qu'il faut simplement faire attention à ne pas mettre d'obstacles, cette fois-ci, de ne pas mettre d'obstacles devant les Juifs, en faisant attention au symbole que représente le sang, par exemple. Pas mettre d'obstacles non plus à la compréhension que les païens vont avoir de l'Église. Parce que pour les Juifs, le problème, ça va être l'observation de la loi. Pour les païens, ça va être d'arriver à sortir de l'idolâtrie dans laquelle ils vivent depuis toujours. Et donc, il faut arriver à leur faire comprendre que l'Église n'a rien en commun avec le culte des idoles. Et donc, les recommandations qui sont faites là, c'est simplement les recommandations qu'on va pouvoir retrouver un peu plus tard chez Paul, à l'église de Corinthe, qui elle aussi vivait des problèmes de division. Alors, c'est peut-être pas le... Oui, voilà, mais si, c'est... Donc, c'est dans 1 Corinthiens, au chapitre 9, et je lis entre les versets 19 à 23, des passages qu'on connaît bien. « Car bien que je sois un homme libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous, afin de gagner le plus de gens possible à Jésus-Christ. Lorsque je suis avec les Juifs, je vis comme eux afin de les gagner. Lorsque je suis parmi ceux qui sont sous le régime de la loi de Moïse, je vis comme si j'étais moi-même assujetti à ce régime, bien que je ne le sois pas, afin de gagner ceux qui sont sous le régime de cette loi. Avec ceux qui ne sont pas sous ce régime, je vis comme n'étant pas non plus sous ce régime, afin de gagner au Christ ceux qui ne connaissent pas la loi. Bien entendu, cela ne veut pas dire que je ne me soumets pas à la loi de Dieu, au contraire, je vis selon la loi de Christ. Dans mes relations avec les chrétiens mal affermis dans la foi, je vis comme l'un d'entre eux afin de les gagner. C'est ainsi que je fais tout, que je me fais tout à tous, afin d'en conduire au moins quelques-uns au salut par tous les moyens. Je me fais tout à tous, dans cet objectif de gagner les hommes à Christ, en étant souple et en m'identifiant à ceux qui sont en face de moi, là où ça n'a pas de véritable portée, mais malgré tout en réaffirmant la vérité de ce qu'est le message de Christ. Et ce passage nous parle de l'unité. De l'unité dans l'Église, l'unité qui était menacée à ce moment-là, donc par cette controverse sur la loi et la circoncision. Je l'ai dit, la question qui était là derrière, c'était aussi de savoir qui est le peuple de Dieu. Peuple qui était jusqu'à présent transmis de génération en génération, comme le texte de Genèse nous le rappelle, et qui, dorénavant, est entre les mains de Dieu, qui se choisit lui-même son peuple parmi toutes les nations. Cette unité qui était menacée et qui a été préservée, comme je l'ai dit déjà plusieurs fois, en réaffirmant la vérité qui est en Christ. Et là aussi, Paul en parle toujours dans cet épître aux Corinthiens, quand il parle de... quand il dit donc dans 1 Corinthiens, au chapitre 1, au verset 10, « Il faut cependant, frères, que je vous adresse une recommandation instante. C'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que je le fais. Vivez tous ensemble en pleine harmonie. Ne laissez pas de division s'introduire entre vous. Soyez parfaitement unis en ayant une même conviction, une même façon de penser. » Une même conviction, une même façon de penser. Ici, la même conviction qui anime chacun de ces hommes, et au bout du compte, chaque Église, c'est que la bonne nouvelle doit être annoncée à tous les hommes. Chaque fois que Paul et Barnabas passent dans une Église et racontent ce qui se passe, tous les frères, le texte nous le dit, sont dans la joie. Sont dans la joie parce que des hommes et des femmes se tournent vers Dieu et l'acceptent dans leur cœur. La même unité, le même but se retrouve dans chacune de ces églises, et c'est là-dessus que l'unité va se faire. Et pourtant, on a la fin de ce passage nous parle d'une séparation. Paul et Barnabas vont se séparer. Pourtant, ces deux-là étaient on ne peut plus unis. Vous connaissez le lien qui unit Paul et Barnabas. On en a déjà parlé. Barnabas, c'est celui qui est allé chercher Paul quand il était à Damas, hein, c'est ça. C'est lui qui est allé le chercher pour l'amener à Antioche, justement. C'est lui qui l'a encouragé. Ils ont voyagé ensemble, ils ont travaillé ensemble, ils ont souffert ensemble. Ils étaient vraiment unis. Barnabas, l'homme qui encourage. Et ils vont pas interpréter le statut de Jean-Marc de la même façon. Ce Marc c'est quelqu'un d'important dans le Nouveau Testament. C'est le fils de cette Marie qui accueillait l'Église à Jérusalem. Quand Pierre était en prison et qu'il est sorti de prison, c'est dans la maison de Marie qu'il est allé. Marie, c'était la mère de ce Marc. Ce Marc, c'est aussi le cousin de Barnabas. Marc, c'est aussi celui qui va devenir le secrétaire de Pierre. C'est lui qui va écrire l'évangile de Marc. C'est lui aussi qu'on va retrouver ensuite près de Paul, quand il sera à Rome et dans les chaînes. Marc sera avec lui, donc on voit qu'il a une trajectoire qui croise celle des apôtres, qui va laisser une trace importante dans le Nouveau Testament. Et Paul, donc ce Marc faisait partie du premier voyage missionnaire, et il est reparti Il est reparti en cours de route. Il est reparti à Jérusalem, si je ne me trompe pas, au milieu du voyage. Et Paul se souvient de ça et en conclut que Marc n'est pas la bonne personne pour les accompagner dans ce second voyage. Et Barnabas, lui, n'est pas d'accord avec ça. Et le texte nous dit donc qu'ils se séparent. C'est difficile, à partir des éléments qu'on a, de savoir qui a tort, qui a raison dans cette histoire. Le texte est assez neutre dans la façon dont il en parle. Alors on voit, bien sûr, la suite du texte ne parle plus que de Paul, on ne parle plus de Barnabas ensuite. Malgré tout, on voit que finalement que l'histoire se termine bien, parce que la séparation et la brouille n'est pas définitive. Mais ça montre que cette unité dont on parlait tout à l'heure n'est pas forcément une unité, j'ai envie de dire, de moyens, peut-être même une unité de personnes. Paul et Barnabas ne vont pas réussir à se mettre d'accord sur les personnes. En tout cas, là, sur la personne de Jean-Marc. Malgré tout, et c'est là-dessus que j'aimerais terminer, même si nos moyens sont différents, même si finalement les routes que nous prenons ne sont pas les mêmes, que ce soit d'aller vers la Syrie ou d'aller vers Chypre, pour Paul et Barnabas, malgré tout, leur objectif et leur but est resté le même. Ils se sont tous consacrés à suivre un seul chemin, à proclamer une seule vérité, à annoncer un seul salut. Et je pense que c'est un exemple à garder dans notre cœur, de voir comment ils ont réussi à mettre de côté leur propre histoire, leur propre tradition, pour s'engager dans le chemin que le Christ leur montrait, comment ils sont allés jusqu'au bout sur ce chemin. Bon, j'espère que ça pourra nous inspirer et nous conduire. Je vous remercie.